Bonjour, bienvenue dans le monde d'Orgasmia, le podcast de tous les plaisirs. Je suis Magali Crozet-Callisto, sexologue, psychologue et addictologue. J'ai publié une dizaine d'ouvrages, dont « Moins de stress grâce au sexe » chez Albin Michel, et tout récemment « Les révolutions de l'orgasme » aux éditions de l'Observatoire. Ce podcast Orgasmia souhaite vous inviter dans les coulisses de la jouissance pour explorer l'orgasme sous toutes ses formes. Voilà des siècles que des malentendus persistent sur la jouissance féminine, mais aussi la jouissance masculine. Orgasmia vous propose de sonder les mystères et les fonctionnements de l'orgasme, de découvrir et de déconstruire les clichés qui ont culpabilisé les femmes et clivé les hommes depuis des années. Orgasmia vous propose de comprendre aussi les nouveaux types de jouissance, via notamment ce que l'on appelle les orgasmes dégénitalisés, comme par exemple l'orgasme musical, l'orgasme culinaire, tantrique, le corgasme sportif, le subspace, ou encore les jouissances liées au cybersexe. Orgasmia est un podcast qui redessine la cartographie des plaisirs. Aujourd'hui, je vais vous parler des liaisons dangereuses et des liaisons heureuses entre le stress et la sexualité. Le stress fut étudié pour la première fois au début du XXe siècle, ce n'est pas une chose nouvelle. À l'origine, ce concept recoupait différents champs scientifiques, tels que la biologie, la médecine, les sciences sociales et humaines, la psychologie ou encore la psychosomatique. Le stress est une réponse neurobiologique, activée de manière naturelle dans le corps, réponse qui va inonder l'organisme lors d'événements inattendus ou désagréablement récurrents. Nécessaire et inhérent à toute condition humaine, le stress permet une réaction et une adaptation de l'organisme face à un imprévu. À ce titre, il est capable d'agir sur l'ensemble des fonctions physiques, mais aussi psychiques, et s'avère essentiel à tout être humain. Son interaction fonctionne donc à large spectre. Aujourd'hui, il fait l'objet de nombreuses études dans le champ des neurosciences, mais aussi dans le monde du travail et, comme vous le voyez aujourd'hui, dans le monde de la sexologie. Alors tout a commencé avec un homme, il s'appelle Hans Selye. C'est le pionnier des recherches relatives au stress. Hans Selye était un jeune médecin canadien d'origine hongroise qui, dès 1920, s'est intéressé au stress en tant que, je cite, « syndrome général de maladie ». Ses études sur le stress en tant que syndrome d'adaptation générale, c'est l'autre formule qu'il a donnée au stress, font toujours référence aujourd'hui. Et le processus du stress se déroule, selon Hans Selye, et c'est toujours le cas, en trois phases. La phase d'alarme, qui est la réaction d'alerte, la phase de résistance, et la phase d'épuisement. Alors ce que je vous propose pour mieux comprendre ensuite l'impact du stress sur la sexualité et l'orgasme, c'est de comprendre en quoi consistent ces trois phases. Et ça pourra vous servir éventuellement aussi dans votre vie quotidienne, car il faut bien le dire, nous sommes à peu près tous confrontés à des périodes de stress dans nos vies modernes. La phase d'alarme, qui est la première phase, s'accompagne de deux réactions indissociables et chronologiques. La phase de choc, la phase de contre-choc. La phase d'alarme correspond à un état de surprise, de sursaut, voire de sidération face à l'agression soudaine. La réaction de contre-choc représente la période de mise en place de moyens de défense pour faire face à l'agression et à l'événement stresseur ou stressant. Chaque personne ayant vécu des traumatismes, qu'ils soient sexuels ou d'autre nature, savent à quel point cette chronologie du choc marque à jamais leur existence. Dans mon cabinet de consultation, il n'est pas rare d'entendre mes patients évoquer un avant et un après de l'événement. Plus que la date calendaire, l'événement traumatique devient un marqueur spatio-temporel dans le déroulement d'une vie. Il représente le point fixe, la datation personnelle, qui marque dans tous les sens du terme. Celle d'un stress ou d'un trauma inattendu, parfois récurrent, et toujours subi. La seconde phase est la phase de résistance. C'est une phase d'adaptation face aux agents stresseurs. Elle sollicite les mécanismes nerveux, hormonaux et immunitaires du corps humain. Les réactions produites relèvent de l'émotionnel, du cognitif, du corporel et du comportemental. Hans Selye nous disait « Le stress est la réponse de l'organisme en vue de s'adapter à toute demande de son environnement. » La phase 2, donc qui est la phase de résistance, induit des sécrétions de cortisol, qui est l'hormone du stress, et d'adrénaline à dose soutenue et renouvelée. La phase 3 est la phase d'épuisement. Elle apparaît quand l'organisme ne parvient plus à s'adapter face aux agents stresseurs. Des problèmes psychiques et somatiques surgissent alors. Cela correspond bien souvent à cette phrase que l'on entend fréquemment. Le corps parle. Mal de dos, gorge nouée, maux de ventre, fatigue intense, motivation en berne, sentiment que le sol s'écroule sous les pieds, l'organisme se relâche, la décompensation guette. Au vu de ces trois phases et des travaux de recherche du docteur Hans Selye, on voit que la connaissance du stress n'est donc pas nouvelle. Mais il est utile de rappeler que, au départ, le stress est toujours positif. C'est un syndrome d'adaptation générale, c'est-à-dire une réaction à court et long terme face à un événement alarmant. Et des événements alarmants, il y en a eu et il y en a encore malheureusement dans notre société. D'un point de vue historique, on peut dire que depuis les progrès de l'industrie et la robotisation de la société, l'être humain a pu se sentir utilisé comme une machine. C'est la mécanisation à outrance, la perte du contact à la nature et du contact avec le temps, les saisons, mais aussi les heures, qui génère de plus en plus de stress. Ensuite, le principe de productivité, de rentabilité au sein des entreprises a contraint les individus à travailler toujours plus et plus vite au nom d'un profit, jusqu'à générer de la fatigue, du surmenage et une perte de sens au travail qu'on appelle aujourd'hui le « brown out ». À différencier du « burn out », le « brown out » est vraiment la question de la perte de sens au travail. Les personnes ne savent plus pourquoi elles vont travailler, ni à quoi leur travail sert. En 2017, la grande enquête de l'Observatoire de la santé psychologique au travail démontrait que 62% des salariés se disent stressés, 30% présentent des symptômes dépressifs et 25% sont en hyperstress avec des risques avérés sur leur santé. Il faut préciser que le stress induit donc toute une série de symptômes psychocorporelles, telles que les maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, un déficit immunitaire, des troubles intestinaux, une accélération du vieillissement des cellules, une fatigue chronique, du surmenage, des potentiels burn-out, des insomnies et également des comportements compulsifs et des addictions. C'est pourquoi la prise en compte du stress dans notre société relève d'un enjeu majeur pour le bien-être des individus. Quel rapport avec la sexualité? Eh bien, on sait aussi, grâce aux dernières études, que 86% des personnes stressées ressentent une baisse de libido et un désintérêt pour les relations sexuelles. Il faut dire que stress et sexualité font rarement bon ménage. Les périodes de confinement durant la pandémie de COVID-19 représentent un exemple probant. Harassés par les enfants à garder, les devoirs à superviser, les repas à organiser, le télétravail à observer, les couples doivent et ont dû être sur tous les fronts. Et si le confinement a confiné, cela ne signifie pas pour autant qu'il a rapproché les êtres. On le sait, les violences, les angoisses, les dépressions, voire les décompensations sont légion lors de périodes de stress intense ou répétées. La production de cortisol, qui est l'hormone du stress, envahit et détruit tout sur son passage. Conflits, irritabilité, colère, mais aussi peur, anxiété, phobie, sont des effets bien connus du stress, sans parler des addictions. Dans la vie des couples, cela se traduit par une absence de désir, ou une baisse en tout cas, par des blocages, des douleurs, mais aussi des problèmes relationnels et de confiance en soi ou en l'autre. Tout le monde aura pu faire l'expérience que quand on est stressé, on ne pense pas en priorité à la sexualité ni à l'intimité. Au contraire, le besoin de calme, de solitude, de repos est plus clairement recherché. Disons-le franchement, en général, le stress étouffe la sexualité. Dans les couples, il génère des tensions et de l'animosité. Et j'ai pu étudier cela, notamment dans mon livre « Moins de stress grâce au sexe » chez Albin Michel, où je parle notamment de burn-out amoureux. À vrai dire, chaque semaine, de nombreuses personnes prennent rendez-vous pour des demandes en lien avec le stress, pensant qu'il s'agit de demandes sexologiques. Pourquoi ? Parce que le stress impacte la sexualité. Chez les hommes, on va trouver en priorité les problématiques d'éjaculation précoce, que l'on appelle aussi éjaculation prématurée, d'angoisse de performance et de dysfonctions érectiles. Chez les femmes, on aura plutôt des problématiques de dyspareunie vulvo-vaginale, c'est-à-dire des douleurs lors de la pénétration, au niveau vulvaire ou en interne au niveau vaginal, des baisses de libido, qu'on appelle aussi hypolibido, ou des anorgasmies, problème d'accès à l'orgasme, et pour les couples, des infertilités dues au surmenage, avec notamment une azoospermie, c'est-à-dire une baisse voire une disparition des spermatozoïdes dans ce qu'on appelle l'éjaculat. Donc les symptômes et les conséquences du stress sur la sexualité des couples sont malheureusement très fréquents. Alors comment trouver le temps de l'amour et du rapprochement des corps lorsque la forme physique et psychique ne suit pas, et notamment en période de stress et de stress collectif, comme nous l'avons vécu toutes ces dernières années? Eh bien, c'est ce que demandent régulièrement les personnes en consultation ou téléconsultation, afin d'essayer de dépasser cet état de stress et de le transcender. Heureusement, face aux différents stress de la vie, eh bien, des solutions existent. Et pour éviter le burn-out amoureux, pour inverser la spirale et repartir sur de bonnes bases, il est judicieux de pouvoir apprivoiser le stress pour s'en servir comme d'un levier. Face au stress, des solutions existent. Nous ne sommes pas tous égaux face au stress. En fonction de l'éducation, de la génétique, du contexte relationnel que l'on vit, contexte professionnel, des parcours et accidents de la vie, du type de personnalité, autant de choses qui font que nos résistances sont multifactorielles. Et tous ces éléments vont faire aussi en sorte qu'il y aura des personnes plus ou moins à risque face au stress. C'est pourquoi, avant toute chose, il est urgent de savoir comment faire face au stress. Et je souhaitais aborder dans ce podcast aussi le stress avec des éléments concrets, très simples à mettre en place, afin de vous permettre d'avoir quelques clés dans votre vie quotidienne pour pouvoir transcender ce fameux stress et parvenir aussi à une intimité réitérée et renouvelée d'un point de vue harmonieux. Donc la première chose pour savoir que faire face au stress, eh bien, c'est d'analyser la situation, de prendre du recul et de voir la situation à distance. Le deuxième point est de circonscrire le problème. Vous avez analysé la situation. Grâce à la circonscription du problème, vous allez pouvoir délimiter les contours de ce problème et pouvoir ensuite le nommer, parce que le fait de le nommer va vous permettre d'agir sur lui. Vous savez où il se situe, comment il est, vous pouvez le décrire, donc vous pourrez ensuite passer à l'action. Le troisième point, avant de passer à l'action, et la prise en compte de vos expériences précédentes. Si vous avez déjà connu des épisodes de stress, il est utile de pouvoir vous rappeler comment vous avez mis en place certains outils pour y remédier, pour y répondre. Et grâce à cette prise en compte de l'expérience, vous allez gagner du temps. La quatrième phase pour répondre à un stress est celle justement de la réponse adaptée, en fait, c'est passer à l'action pour donner une solution au problème. Donc, cette action, elle va être ciblée parce que vous aurez pu nommer, voir d'une part et nommer le problème ensuite. Et puis, grâce à votre expérience, vous allez pouvoir réutiliser des outils ou en inventer d'autres, en créer d'autres pour répondre donc au stress actuel. Enfin, la dernière phase est celle que l'on appelle du maintien d'action. Le maintien d'action face au problème, c'est-à-dire, une fois que vous avez trouvé une ou plusieurs solutions adaptées pour répondre au problème, il s'agit de les maintenir dans le temps pour totalement annihiler ce problème et éviter qu'il ressurgisse à nouveau si c'est possible. En tout cas, vous pourrez le prévenir comme ça. En complément à ces éléments pour faire face au stress, il y a trois questions très utiles qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. La première, c'est de vous demander, eh bien, qu'est-ce que je ressens? Que me dit mon corps? À l'intérieur de moi, que se passe-t-il? Ensuite, qu'est-ce que je me dis? C'est la deuxième question. Qu'est-ce que je me dis? Ça veut dire, que me dit mon cerveau, ma rationalité, mon sens de l'analyse? Enfin, troisième question, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, comment je mets en place une réponse? Que font mes organes? Que font mon corps et mon cerveau en réponse comportementale face à ce stress? Donc là, on a trois degrés. On a le degré du corps corporel, qu'est-ce que je ressens, et des affects. On a le deuxième degré conceptuel, rationnel, celui qui est plus cérébral, qu'est-ce que je me dis, et qu'est-ce que je fais, qui est de l'ordre du comportemental. Grâce à ces trois questions, vous allez pouvoir circonscrire davantage l'état de stress et le nommer plus précisément et pouvoir mieux agir sur lui et les agents stresseurs extérieurs. Petite précision, vous pouvez aussi, si cela est difficile ou que ça reste confus en période de stress, vous pouvez aussi consulter quelqu'un, c'est-à-dire une personne spécialisée en psychologie, un psychologue, notamment avec une formation en thérapie cognitive et comportementale. Du point de vue de la sexualité, eh bien il y a une bonne nouvelle. Parce que stress et sexe peuvent faire bon ménage malgré tout, car ils sont intimement liés. Et plutôt que de voir uniquement les liaisons dangereuses, je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas inverser la donne, faire un effet de levier pour que ce ne soit plus le stress qui agisse sur la sexualité, mais l'inverse, c'est-à-dire la sexualité qui vienne agir sur le stress. Il faut dire que les hormones du stress sont très proches de celles de l'amour. Lors d'un rapprochement physique, notre cerveau produit de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, mais aussi de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines, trois neurotransmetteurs qui rendent euphoriques et harmonisent le corps et influencent positivement notre humeur en nous offrant une sensation de bien-être. Au-delà de ces vertus apaisantes, le sexe, et l'orgasme en particulier, renforce le système cardiovasculaire, le système immunitaire aussi. Il aide à mieux dormir et booste les facultés mentales. C'est un véritable plan de lutte contre le stress. Vous retrouverez tout ça dans mon livre déjà évoqué « Moins de stress grâce au sexe » chez Albin Michel. Et en fait, voilà une grande révolution. La sexualité et notamment l'orgasme représente un outil incroyable et souvent méconnu pour traiter le stress et ses symptômes. À partir du moment où elle est consentie, bien sûr, et vécue en harmonie, la sexualité peut aider à déstresser. Comme vous l'aurez compris, le sexe détend et fédère les êtres en même temps. Si on veut schématiser un peu, on pourrait dire aussi que plus on fait l'amour et moins on est stressé, et moins on est stressé et plus on fait l'amour. Toutefois, pour bénéficier des bienfaits de la sexualité, il est peut-être nécessaire de revoir notre rapport au temps, à l'amour, à soi-même et à l'être aimé. Je dis peut-être parce que nous sommes dans une société de suractivation permanente où les essentiels passent souvent au second plan pour pouvoir fournir au quotidien toutes les réponses aux tâches multiples que nous avons à accomplir. Jusqu'à présent, nous étions surtout dans le faire et moins dans le ressentir depuis le XXe siècle. Mais est-ce que l'une des vertus finalement de tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire de la pandémie et des différents confinements, pouvait être de transformer la donne au profit d'un réagencement amoureux du quotidien? La question se pose. Il va bien falloir trouver des points positifs à cette pandémie, et peut-être que celui-ci en est un. Revoir notre rapport au travail, au temps disponible, à l'autre et à soi. Car si tel n'est pas le cas, le risque est de retomber dans l'engrenage infernal et que le stress reprenne le dessus en asphyxiant la sexualité. Toujours dans l'esprit de vous apporter aujourd'hui des éléments concrets pour essayer d'avancer par rapport à cette problématique stress et sexualité, je vais vous proposer trois approches simples et faciles à mettre en place pour renouer avec soi-même et avec l'être aimé. La première approche se nomme le sex time. L'idée, c'est d'inscrire dans son agenda un rendez-vous avec son partenaire. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, le rendez-vous n'arrivera pas, à cause du stress. Le but n'est pas d'avoir un rapport sexuel complet. Non, la pénétration n'est pas obligatoire et pour cela, je vous renvoie au deuxième podcast, à l'épisode 2 d'Orgasmia. Mais donc, si le but n'est pas d'avoir un rapport sexuel complet, il est peut-être de s'octroyer en tout cas un moment intime, avec des caresses, des baisers, du peau à peau, sur un moment ciblé et donc circonscrit au départ. Vous pouvez, par exemple, imaginer vous retrouver 30 minutes, ce qui est déjà pas mal. Ce moment évite la charge mentale provoquée par l'incertitude et la pression interne qui monte face au temps qui passe, sans qu'il ne se passe rien. Il permet aux deux partenaires de se mettre d'accord à l'avance, donc, sur le bon moment pour un plaisir partagé. Évidemment, si vous sentez des résistances, c'est que ce n'est pas le bon moment, donc mieux vaut reporter à une prochaine fois. Le sex time est un moyen de remettre dans votre vie des moments de plaisir d'une manière au départ organisée, certes, mais ensuite quand vous y aurez repris du plaisir, quand vous sentirez que la sexualité et surtout les moments de bien-être, des moments intimes de bien-être, hein, il s'agit de ça, eh bien pourront vous déstresser, vous faire du bien, alors vous n'aurez plus besoin de les marquer ou de les prévoir et d'anticiper à l'avance, ils arriveront de même. La seconde approche que je vous propose, je l'ai nommée le jeu de la boîte à fantasmes. Si vous pensez avoir perdu votre imaginaire érotique ou avoir fait le tour de celui de votre partenaire, eh bien ce jeu est pour vous. Alors l'idée, c'est que chacun écrive ses désirs sur un bout de papier. Une fois le désir inscrit sur les bouts de papier, le but étant d'en avoir 5 ou 6, vous pouvez les placer dans une boîte, de type boîte à mouchoirs, ça fait très bien l'affaire. Lors d'une soirée, ensuite, dans un cadre propice, harmonieux, que vous aurez choisi au départ, le premier partenaire tire un des bouts de papier dans la boîte et s'engage à contribuer du mieux possible à la réalisation du désir de l'autre qui lui est proposé, qu'il est en train de lire donc sur le bout de papier. Il s'engage donc à faire ce que l'autre lui demande. Bon, un joker est possible. Cela permet, en fait, via cet exercice, de redécouvrir les désirs de son partenaire, tout en se posant la question de ses propres désirs à inscrire sur les 5 ou 6 petits bouts de papier, et de permettre de recréer du jeu, donc un esprit ludique dans les échanges amoureux, tout en mettant un petit peu de nouveauté. Bien sûr, si, encore une fois, vous voyez que ça ne fonctionne pas, alors ce n'est que c'est pas le bon moment, et n'hésitez pas à ce moment-là à réactualiser, à renvoyer ce moment à une autre période qui sera plus propice. La troisième approche que je souhaite aborder aujourd'hui pour vous donner des outils concrets pour essayer de vous reconnecter à votre corps et faire baisser le stress via la sexualité, eh bien, se nomme le slow sex. Le slow sex permet de se reconnecter à ses sensations, au corps du partenaire, de s'adonner à une activité sexuelle sans viser l'orgasme cependant, puisque le but premier du slow sex est de prendre son temps pour atteindre le bien-être. Le slow sex doit pousser les partenaires vers des zones jamais ou très peu caressées, de manière à sonder leur potentiel érogène. Il vaut mieux avoir du temps devant soi et prévoir 1 heure ou 1 heure et demie. Je conseille de scinder le moment en 2 temps. Durant la première demi-heure, la femme guide son ou sa partenaire en lui indiquant ce qu'elle aime, ce qu'elle veut et comment. Et durant la deuxième demi-heure, les partenaires échangent les rôles. Le but du slow sex est de renouer avec le temps qui passe de manière positive et sensitive. On se caresse, on explore différents endroits du corps, on le découvre, On peut se masser, se bander les yeux. Bref, je vous laisse imaginer la suite. L'objectif est de renouer avec ces sensations psychocorporelles tout en renouant avec le temps. Choisir donc le sexe comme parade ou contre-pouvoir au stress est une piste sérieuse et prometteuse. Avoir conscience des effets autant que des signes annonciateurs du stress peut éviter des drames individuels et systémiques, comme les drames amoureux, relationnels, professionnels. À ce titre, tout l'enjeu réside alors dans la prise de conscience de son état de stress. Non pas pour annihiler le stress, mais pour apprendre à s'en servir comme d'un levier. Nous avons déjà évoqué le slow sex, le sex time ou la boîte à fantasmes comme exercice à pratiquer en couple, pour apprendre à se déstresser tout en se retrouvant intimement. Mais il y a aussi d'autres approches qui existent, comme par exemple le tantrisme, le yoga, la méditation, les exercices de respiration, la cohérence cardiaque, sans oublier bien sûr toutes les activités qui peuvent vous faire plaisir, comme le sport, le jardinage, la musique, la couture, le bricolage, etc. Tout ceci peut produire en vous un plaisir accompagné d'un effet de relâchement. Et nous en avons ô combien besoin dans nos sociétés actuelles. Ce qui revient à dire, finalement, que traiter le stress, c'est soigner sa libido. Et inversement, en soignant sa libido, on traite le stress. Apprivoiser le stress, le canaliser, pour en faire une force motrice dans votre vie et vos relations, eh bien, ça vaut le coup d'y penser. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker sur les réseaux sociaux, sur Instagram et toutes les plateformes d'écoute en ligne. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, premier dimanche de chaque mois, pour un nouvel épisode d'Orgasmia. Sexologiquement vôtre.